Ça va bien? Merci, Miguel. Juste avant d'aller vers la lecture des Écritures, entamer cette nouvelle série sur l'ambition, deux petites annonces encore pour vous. On a plusieurs événements qui s'en viennent cet automne, le lancement des Explos au début du mois de septembre, après la fête du travail, tout ça. Mais deux conférences aussi auxquelles c'est déjà le temps de commencer à s'inscrire pour profiter des rabais, tout ça. Puis on est pas mal privilégiés parce que je vous dirais deux des conférences pas mal intéressantes qu'il va y avoir au Québec cet automne sont données ici à l'Église. Donc, c'est un privilège pour nous. La première que je veux mentionner est un peu plus tard en septembre. Après ça, c'est Sola. C'est la première fois que Sola va tenir une conférence ici. C'est un séminaire, en fait. Et puis, donc ça, c'est le 19 septembre et il y a un escompte qui est accordé pour ceux qui s'inscrivent d'ici la fin juillet. Alors, pour les deux conférences, là, il va y avoir une table à l'arrière. Les gens vont pouvoir peut-être clarifier des choses si vous avez encore des questions sur quelle conférence est plus pertinente pour vous, quels seraient vos besoins, tout ça. Dans le cas du séminaire Sola, ce qu'on cherche à faire cette année, c'est équiper davantage l'Église au niveau des relations interpersonnelles, relations parents-enfants, les relations entre nous, lorsqu'on veut se servir de l'Évangile dans nos relations ensemble. Donc, au début de la matinée, il va y avoir une première plénière où on va juste voir comment voir Christ dans l'Ancien Testament de différentes manières. Puis, on veut faire ça avec nos enfants, on veut être capable de le faire dans nos dévotions matinales lorsqu'on est en train de lire la Bible pour nous-mêmes. Donc, c'est très concret, pratique. Une autre des sessions, ça va être comment enseigner l'Évangile à mon enfant sans faire un petit religieux. Il y a vraiment un piège hein, pour que nos enfants voient juste ça comme « Ah! » C'est la patente de mes parents, il faut que je les suive là-dedans. Comment est-ce que je fais pour les instruire dans la foi en évitant ces pièges-là avec des gens qui ont beaucoup d'expérience qui vont nous parler de ça? On va parler entre autres de l'Évangile et la honte. Toute la dynamique de la culpabilité. Une culpabilité, des fois, lorsqu'on pêche, il y a une culpabilité qui est saine puis qui nous amène à changer de voie, n'est-ce pas? Mais en même temps, des fois, il y a une honte qui reste attachée à nous. Puis en principe, l'Évangile nous libère de ça. Puis la honte, c'est énorme dans... Pour les Québécois, c'est énorme. Dans le cœur humain, c'est énorme. Donc, on va apprendre avec l'Évangile comment aller adresser ça. Fait que c'est vraiment pratique. Il y a une préconférence le vendredi pour ceux qui sont appelés plus à enseigner. Vous pouvez aller sur le site de Sola, vous pouvez aller à la table à l'arrière pour avoir plus d'informations. L'autre conférence qui vient, elle, a lieu au mois de novembre. Donc, on vous annonce les deux en même temps parce que à un moment donné, tu dis « Ah, il y a bien des affaires, puis on est mêlés. » Donc, juste pour les départager comme il faut, la deuxième conférence, celle-là a lieu au mois de novembre. C'est une journée le samedi aussi. On a un invité qui vient de l'extérieur dans ce cas-là, donc ça va être avec traduction, David Paulison. La conférence, c'est « Comprendre les idoles du cœur dans le domaine du stress, de la plainte et de la fuite ». Monsieur Paulison est vraiment un expert en counseling biblique. Et toujours en travaillant avec l'Évangile, il va adresser ces défis-là, ces problèmes-là, ces choses-là qu'on peut vivre. Et souvent, ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qu'il y a derrière le stress? Qu'est-ce qu'il y a derrière la plainte dans notre cœur lorsqu'on est en train de se plaindre constamment devant les fuites qu'on opère aussi? Qu'est-ce que l'Évangile nous enseigne à détecter derrière ça pour pouvoir justement grandir? Alors, vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant pour les conférences. Vous vous rendez à la table après. Vous pouvez aller sur le site web de Sambec pour cette conférence-ci aussi ou sur le site de Sola. Mais on prend les inscriptions ici aussi. D'accord? Donc, profitez-en. Je sais qu'il y a certains escomptes qui se terminent là, au mois de juillet. On va passer à la lecture de la parole. Je vais inviter Stéphane à venir me rejoindre si ce n'est déjà fait. On commence une nouvelle série ce matin. On commence une nouvelle série qui s'appelle « L'ambition ». Et on adresse quelque chose qui, moi j'ai à cœur d'adresser ça depuis longtemps. Je pense que c'est un problème pour les chrétiens. On ne sait pas trop quoi faire avec cette affaire-là, qui est l'ambition, qui est là dans à peu près tous les cœurs humains, soit des fois dans notre jeune âge, des fois on perd nos rêves, nos illusions, on perd nos ambitions en vieillissant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça comme chrétien? Est-ce que quelqu'un peut être spirituel puis ambitieux en même temps? Est-ce que ces choses-là vont ensemble? Et donc, j'avais à cœur d'adresser ça. Alors, c'est une courte série de 3 dimanches, et puis on commence à mettre la table ce matin en allant dans ce passage fondateur, dans le livre de la Genèse, au tout début de la Bible, pour simplement déposer une base, puis dire, OK, comprendre qui est l'être humain à son origine. Comment est-ce que Dieu a conçu l'homme, la femme, l'être humain? Et vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de lumière sur cette grande question-là qui nous anime tous de l'ambition. Si vous le permettez, on va aller dans un mot de prière, puis ensuite on va écouter la parole de Dieu. Père éternel, tu dis dans ta parole que tu nous as créés à ton image. Tu es un être absolument glorieux. Tu es un être qui brille de gloire, Seigneur. Lorsqu'on apprend à te connaître en lisant les Écritures, on découvre combien tu es saint, combien tu es amour, combien tu es parfait, combien tu es compatissant, combien tu es tout-puissant, combien tu es gracieux, Seigneur. Et cette beauté-là nous émeut, Seigneur. Ça nous attire vers toi. Puis en même temps, tu nous as créés à ton image. Tu as fait de nous des créateurs, des gestionnaires, des gens qui ont des projets, des gens qui veulent réaliser des choses, laisser leur marque se réaliser. Je te prie, Père, de venir nous éclairer à travers cette série, cette courte série. Viens nous aider à comprendre, comme chrétiens, comme hommes et femmes qui cherchons à grandir spirituellement, quelle place dans notre foi, dans notre vie, peut et doit occuper aussi l'ambition, Seigneur, à la lumière de ta parole. Je te prie, Père, d'ouvrir nos cœurs, de nous aider à être disponibles d'esprit, qu'on ne soit pas fermés à entendre ce que tu veux nous dire. Et viens nous parler ce matin, c'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alors, écoutons la parole de Dieu.
Alors, ce matin, on tourne dans la Genèse, au chapitre 1. On va lire ensemble les versets 25 à 31. Genèse 1, 25 à 31. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Et à tout animal de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour.
Comme je le disais, ça fait longtemps que j'ai à cœur d'adresser ce sujet-là. Lorsque j'y pense, puis lorsque je jase avec des gens, ce qui me vient à l'esprit, c'est le problème de l'ambition et le christianisme et la vie chrétienne. On va revenir un peu sur la notion d'humilité, mais une des grandes vertus du christianisme, n'est-ce pas, pour un chrétien, c'est l'humilité. Et on peut lire de ça que, comme chrétien, il n'y a pas de place pour l'ambition, puisque on est appelé à être humble, on est appelé à laisser les autres passer devant nous. Est-ce que ça se peut être ambitieux et spirituel? Puis les Écritures n'adressent pas ça comme un sujet constant, puis en même temps, c'est là comme trame de fond à travers toutes les Écritures. Est-ce que, par exemple, quelques questions qu'on peut se poser, est-ce que le chrétien peut chercher à être le meilleur à sa job? Est-ce que c'est chrétien de vouloir faire ça? Est-ce qu'un chrétien devrait chercher la première place sur le podium? Est-ce qu'un chrétien devrait être ambitieux financièrement ou au niveau de sa carrière? C'est des exemples qui touchent beaucoup le travail, mais on peut avoir des ambitions pour la famille, des ambitions au niveau des relations, des ambitions artistiques. On peut avoir toutes sortes d'ambitions, des ambitions plus spirituelles dans le cadre de nos ministères, dans l'Église. Moi, personnellement, lorsque je suis devenu chrétien, ça serait difficile de dire qu'il n'y avait aucune ambition. J'accepte le Seigneur. Dans la première année, je vais voir le pasteur. Je dis, moi, je veux prendre votre place. En gros, c'est ça. Je suis allé voir. J'ai dit, je vais être pasteur. C'était clair comme ça dans ma tête. C'est ça que j'aspire à faire. Je vais être pasteur. C'était tout spirituel, cette affaire-là. C'était vraiment extraordinaire. Je voulais juste mourir pour Jésus. Puis, ça m'attirait pas l'idée d'avoir 200-300 personnes qui m'écoutent parler le dimanche matin. Ah, pas sûr que c'est si simple que ça. Alors, voyez-vous, est-ce que ça peut faire partie de la vie chrétienne? Puis, je pense que si on veut si on veut annoncer l'Évangile dans notre culture, c'est d'autant plus pertinent que on dit souvent que les Québécois ont un drôle de rapport avec d'autres termes aussi. La gloire, le succès. Les gens qui ont du succès, bien, est-ce que c'est pas le fruit d'ambition personnelle qu'ils réussissent à avoir du succès? Quelle sorte de rapport les Québécois ont avec ça? Un rapport, est-ce qu'on est confortable avec ça? On dit que c'est une grosse question au Québec. Et donc, je pense que souvent, ce qu'on est comme personne, comme Québécois dans notre culture, je pourrais venir de n'importe où sur la Terre, puis là où je vis dans cette culture-là, ça me définit. Et quand je viens à la connaissance de Jésus-Christ, quand je viens à la connaissance de l'Évangile, je ne deviens pas une autre personne détachée de sa culture. Cet héritage-là définit beaucoup, l'héritage avec lequel je suis arrivé définit beaucoup qui je suis, et progressivement, au fur et à mesure que je vais apprendre à connaître Dieu, que Dieu va me faire grandir spirituellement, que je vais étudier sa parole, il y a des choses qui vont se raffiner. Il y a comme un processus de croissance où il y a des corrections qui vont se faire. Il y a des choses que je vais mieux saisir. Et tranquillement, il y a des choses dont je vais me détacher. Mais cette question-là de l'ambition, c'est une question importante au Québec. Alors, quelques définitions. Juste pour vous donner un petit peu l'étendue de cette question-là. Ça se peut que ce matin, je vous avertis, ça se peut que ce matin, vous quittiez et vous dites, « Ouais, Yannick, nous as-tu parlé de gloire, nous as-tu parlé d'ambition? » Je ne suis pas certain exactement. C'est assez vaste, puis c'est volontaire que j'y aille comme ça. Et au fur et à mesure, la série dure simplement 3 dimanches. Au fur et à mesure qu'on va avancer, si vous en manquez avec les vacances, allez prendre le podcast sur le site, sur iTunes ou sur le site web de l'Église. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va se préciser, ça va se clarifier. Quelques définitions. Définition d'un dictionnaire, tout simplement, ambition, recherche ardente de la réussite, du pouvoir, des honneurs. Vous pouvez aimer, ne pas aimer, c'est une définition dans un dictionnaire. Dave Harvey, je vais vous parler de lui un petit peu plus loin aussi, un auteur chrétien, j'aime énormément à peu près tout ce que Dave Harvey fait, et dans son livre « Secourir l'ambition », il a écrit comme définition « la motivation instinctive » permettant d'aspirer à certaines choses, de produire un résultat, d'avoir un impact et de laisser sa marque dans la vie. Ça, c'est la définition que lui a donnée de l'ambition. Ma définition, quand j'étais en train de lire ce livre-là, j'ai commencé à griffonner, puis j'ai dit, OK, je vais écrire ma définition. Comment je le définirais maintenant? Puis je trouve ça intéressant juste de me relire. Le désir de dépassement, de reconnaissance, de réalisation personnelle. Moi, je vous dirais que c'est un ingrédient super important à l'âme humaine, à ce que c'est un être humain. Qu'est-ce que les Écritures ont à nous dire là-dessus? Puis, une partie du malaise vient dans notre compréhension de l'humilité, mais on va revenir aussi sur ça un petit peu plus loin. Mais peut-être juste vous donner une piste, là, on revient tantôt. Songez que l'humilité dans les Écritures, lorsqu'elle est bien vécue, va être récompensée par la gloire. OK, pensez à ça. Réfléchissez à ça pendant qu'on est en train de réfléchir ensemble. Dans les Écritures, l'humilité, lorsqu'elle est bien vécue, la récompense qui lui est promise, c'est la gloire. C'est intéressant, hein? Lorsqu'on parle d'ambition, poursuite de gloire, tout ça. Alors, des mots qui gravitent autour de ça, ambition, gloire, quête de gloire, reconnaissance, fierté, laisser sa marque, réalisation personnelle, c'est des concepts qui sont en plus, super important à notre époque parce que notre culture carbure à ça, à la réalisation personnelle, n'est-ce pas? Je lisais dernièrement des valeurs qui ont changé en entreprise. Voilà, 50-60 ans, généralement, un bon employé, c'est un employé qui faisait exactement ce que tu lui demandais de faire. Il était totalement fiable. C'était pas la personne qui prenait un paquet d'initiatives puis qui avait dans l'idée que la compagnie devrait fonctionner autrement. Ça, c'est un bon employé. Il faisait ce qu'il avait à faire, tout ça. Aujourd'hui, un employeur va s'attendre d'un très bon employé qui fasse sa job, c'est vrai, mais qui soit capable de penser autrement aussi, qui sorte un petit peu du cadre, qui arrive avec de l'innovation, qui arrive avec des idées, qui brasse les choses autrement. Ça va être un super employé. Voyez-vous, la culture change. Et donc, cette idée de me démarquer des autres est super importante dans notre culture. Puis, en fait, beaucoup des réseaux sociaux servent à quelque part à ça sur le plan personnel. Je veux, Je veux avoir des gens qui vont apprécier ce que je vais publier. Les gens ont remarqué ce qui se passe dans ma vie. Les gens me suivent. Je veux que mes amis viennent poker juste pour dire, oh, c'est super ce que t'as fait aujourd'hui. OK, je suis là. Je pense à toi. Tout ça, j'ai besoin de me démarquer, d'être moi, d'être original. Et donc, ça aussi, c'est là un petit peu derrière toute cette question-là. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble pour commencer cette série-là, on va voir ensemble que Dieu nous a créés, et là vous avez l'impression qu'on s'en va complètement ailleurs, restez avec moi. Dieu nous a créés pour apprécier sa gloire. Il nous a créés aussi pour participer à cette gloire-là. Et ça, c'est super important. Ce matin, si je peux déposer ça dans votre compréhension du christianisme, Dieu nous a créés pour participer à sa gloire. On va voir un petit peu plus ensemble ce que ça veut dire. Il nous a créés avec une aspiration profonde à ce qui est glorieux. C'est là dans l'être humain. Et la question qu'on se pose souvent, c'est, ouais, mais est-ce que c'est spirituel, cette affaire-là? Alors, premièrement, une créature merveilleuse pour un créateur vraiment merveilleux. Et avant d'aller vers le passage de Genèse, je vais juste vous lire quelques versets tirés d'un autre livre de l'Ancien Testament qui commence par nous parler de Dieu. Dans 1 Chronique 16, voici ce qu'on lit au verset 23. Chantez à l'Éternel, qui est un synonyme dans l'Ancien Testament pour Dieu. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, en somme des statues, le fruit de l'imagination de l'homme. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes. Venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point, sous-entendu par la puissance de Dieu. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Voici le Dieu créateur, voici Dieu tel qu'il nous est présenté, tel qu'il se fait connaître à nous à travers la Bible. Dieu se présente comme l'être le plus grand, le plus glorieux, le plus beau de l'univers. Et ça peut avoir quelque chose de choquant pour vous. Maintenant, dans la vision chrétienne du monde, dans notre foi, c'est lui l'auteur de toutes choses. C'est lui le grand designer qui est derrière toute chose. En fait, la Bible nous dit que Dieu soutient toute chose. Alors, non seulement Dieu m'a donné la vie au jour de ma naissance, mais Dieu soutient ma vie actuellement. Et si Dieu décidait que cet ordre-là, tellement précis, tellement particulier, qui fait qu'on respire, on vit, tout ça, si Dieu décidait de bouleverser cet ordre-là, un temps soit peu, la terre entière disparaîtrait. Chacun d'entre nous, on disparaîtrait. Donc, non seulement dans une vision chrétienne, on adore Dieu, puis on louange Dieu, puis on reconnaît sa grandeur parce qu'on dépend de lui, donc dans une espèce d'esprit de révérence, de respect, mais aussi parce qu'il est absolument beau. Tu tombes en amour avec une fille, puis tu dis, waouh, j'ai découvert l'amour, puis elle est tellement fine, et tellement belle, elle m'aime, waouh, c'est génial. Mais tu découvres un jour que, ouais, elle est belle et fine, tout ça, mais elle n'est peut-être pas parfaite lorsqu'on parle d'amour, tu sais. Puis toi non plus, tu ne l'es peut-être pas. Mais lorsqu'on parle de Dieu, songez à toutes les vertus, toutes les qualités humaines les plus belles auxquelles vous pouvez penser. Dieu se révèle comme celui qui les possède toutes à perfection parce qu'il en est l'auteur. Elles émanent de lui. Donc, de voir cette idée-là que Dieu est absolument glorieux, parfait, que Dieu désire, que Dieu veuille que nous l'adorions comme un acte égoïste, c'est de se méprendre sur la nature même de Dieu. Dieu est ce qu'il y a de plus bon et de plus beau, et nous priver de lui, ça pourrait être un acte égoïste de sa part, s'il nous privait de sa gloire. Il est le plus beau des tableaux que vous allez voir, la plus belle des personnes que vous allez rencontrer, l'être qui va le mieux vous combler, maintenant et pour l'éternité. Et ça, c'est notre Créateur, c'est ce que nous dit la Bible. Maintenant, je reviens dans Genèse. Venez avec moi dans Genèse 1, d'accord? On va commencer à construire ça ensemble. Dans Genèse 1, la Bible nous dit que ce Créateur merveilleux-là, alors qu'il crée la terre, qu'il crée le monde, qu'il crée l'univers physique tel qu'on le connaît, tout ça, bien, à un certain moment donné, il va créer l'homme, va créer la femme. Au verset 26, dans Genèse 1, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Lorsque Dieu crée l'être humain, il le crée particulier. L'être humain est présenté dans la création comme le summum de cette création terrestre-là. Et l'être humain est présenté comme le summum de la création parce que de tout ce que Dieu a créé, seul l'être humain est à l'image de Dieu. Et le passage ne nous dit pas vraiment c'est quoi être à l'image de Dieu. On cherche à donner une définition à tout ça. On essaie de bien comprendre. Mais définitivement, dans ce qui va suivre, dans ce qui est confié à l'homme et à la femme de faire, de dominer sur la terre, dans le sens le plus noble du terme, de dominer sur la création, de gouverner, Dieu crée un être à sa ressemblance, qui devient lui aussi une sorte de créateur. Et ça, à la limite, je veux dire, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu sois, j'oserais même dire athée, tu regardes la terre et tu dis, OK, l'espèce humaine est hors norme lorsqu'on le compare à tout ce qu'on connaît. Ça démarque totalement par cette capacité-là, ce désir-là d'organiser toute chose. Ce désir-là de construire, de faire, de bâtir. Et donc, c'est ça qu'on découvre dans Genèse 1 ici, c'est que Dieu crée l'homme, la femme, il les place là, ils sont à son image, il leur confie de dominer sur toute la terre, de gouverner la terre. Et donc, Dieu les place comme des régnants. C'est super important de comprendre ça parce que lorsque j'arrive après ça dans le Nouveau Testament, je ne peux pas comprendre c'est quoi un chrétien en détachant, comme en oubliant la moitié de la Bible. C'est fondateur de réaliser que l'être humain a été créé pour régner. Dieu règne sur l'univers, d'accord? Et Dieu a créé l'être humain pour qu'il règne sur la terre. Vous allez me dire, il n'a pas tout fait des bons coups, on est d'accord là-dessus, d'accord? Ça, c'est une autre histoire, on va en parler la semaine prochaine. Mais c'est ça le but. C'est que l'être humain soit là et ressemble à Dieu, qu'il soit un créatif, un gestionnaire, un organisateur. Que l'être humain, si je veux le mettre dans des termes contemporains, que l'être humain laisse sa marque. Bon, encore, la marque que l'être humain est en train de laisser sur la terre, on peut en discuter encore. Mais l'être humain était là pour laisser sa marque. Comme toute la création, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 1, nous parle de Dieu. Toutes nos créations parlent de l'homme. Et en ceci, l'homme devait refléter Dieu. Il y a un verset vraiment surprenant dans le livre des Psaumes. La première fois que tu le lis, c'est « Ah, OK, on a le droit de dire ça quand on croit en Dieu. » Peut-être pour vous, c'est bien évident, mais moi, ça m'a frappé la première fois. Psaume 139, verset 14. Le psalmiste est en train de louer Dieu. Les psaumes, c'est des chants, c'est des cantiques qui sont adressés à Dieu. Et puis dans sa prière, dans son chant, il est en train de dire à Dieu, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Fait que ce psalmiste-là, à ce moment-là, considérant toute la création, se considère lui-même comme un des éléments de la création et il loue Dieu de ce que l'homme, parce que l'être humain est une créature vraiment merveilleuse. Et une des manières que l'être humain est merveilleux, c'est qu'il ressemble à Dieu. Il ressemble à Dieu en étant un créatif, en étant un gestionnaire, en étant celui qui pense les choses, qui les organise, qui s'exprime à travers les arts, qui s'exprime à travers des réalisations. En ceci, nous ressemblons à Dieu, non seulement dans nos rapports les uns avec les autres. On pourrait aller là, ce n'est pas le sujet ce matin, pour aller là dans les relations les uns avec les autres. Au sein de la Trinité et les relations, tout ça, l'être humain est en relation, on ressemble à Dieu. Il y a vraiment différentes facettes à cette image de Dieu en nous. Mais pour comprendre cet appétit-là, ce craving-là qu'on dit en anglais de vouloir laisser ma marque, de vouloir faire des choses, de vouloir me réaliser, de vouloir bâtir des choses, qui est à peu près dans tous les êtres humains. Quand tu rencontres quelqu'un qui n'a aucune ambition, tu sais qu'il y a une histoire derrière ça. Tu sais qu'il y a quelque chose derrière ça. Tu t'inquiètes pour ça. Quand tes enfants, une journée t'arrive, puis tu les trouves un peu déprimés, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'ai aucune idée. Écoute, si ça dure quelques mois, je te dis, tu commences à prier. Si tu ne priais pas, tu commences à prier. Ils n'ont aucune ambition, aucun rêve, aucun désir. L'être humain a été créé, nous dit le livre de la Genèse, pour être à l'image de Dieu, des créateurs, des créatifs. Et ça nous aide à comprendre ces deux éléments-là, le fait que Dieu est beau et glorieux et on est appelé à l'adorer, et le fait que nous, on a été créés à son image, qu'on est appelé à dominer, on est appelé à organiser, on est appelé à le refléter dans cet aspect-là, ça nous aide à comprendre combien on est touché, on est ému par ce qui est glorieux. Puis là, je vais juste prendre un petit rabbit trail, je fais juste un petit détour rapidement. On est tous comme ça. Dans la question de la foi, c'est est-ce que Dieu est au centre de tout ça, de mon adoration? Puis on va venir sur ça, mais on est tous sensibles à ça. On regarde un match de hockey. Pensez aux Canadiens, la dernière Coupe Stanley. Puis pensez si l'année prochaine, le Canadien devait gagner. Qu'est-ce qui se passerait au Québec? Qu'est-ce qui se passerait au niveau de notre fierté? Puis tu sais, je veux dire, je peux être un joueur de hockey de salon. Pire encore, ça peut être un gars comme moi qui comprend pas grand-chose à ça. Écoutez, je suis juste dans les séries. Puis là, si on approche de ça, vous allez voir, je vais apprendre à connaître les joueurs, je vais vous en parler, tout ça. Parce que je vais m'identifier avec cette équipe-là qui, à quelque part, c'est Montréal. Puis il y a quelque chose de glorieux qui s'en vient pour nous. Et donc, on va s'identifier à ça. C'est comme si par substitution, on va aller s'identifier avec ces gens qui réussissent. Ils ne sont pas simplement une inspiration, ils nous apportent de la joie parce qu'on s'identifie à eux. Ça va être vrai si vous allez, écouter une pièce de musique, je ne sais pas, vous aimez le classique, puis vous écoutez un virtuose de violon. Cette semaine, j'ai réécouté les 24... Esther me le dirait, les 24 pièces de Paganini, c'est complètement malade, puis j'étais porté par ça, c'était extraordinaire. C'est vraiment génial. Si je pouvais assister à ça, puis voir un virtuose en train de le faire, j'apprécie non seulement la beauté, mais je suis impressionné par l'excellence de ce qui est en train de se produire devant moi. Et si je peux, si c'était mon fils, si c'était mon frère, en plus, il y aurait une fierté par association avec lui. On a été créé pour apprécier ce qui est glorieux dans la personne de Dieu et à travers sa création et à travers ce que l'être humain crée aussi. On a été créé pour ça. On est construit intérieurement pour aspirer d'une part à remplir ce mandat-là qu'il y a dans la Genèse de dominer, de réaliser, de gérer, de créer, de s'exprimer, d'organiser. Puis d'autre part, on est ému par ça, par cette beauté-là, lorsqu'on voit quelque chose de beau, de glorieux, d'extraordinaire. Donc l'aspiration à faire de grandes choses nous vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a placé en nous. Cette aspiration-là est saine. On reflète la personne de Dieu en aspirant à réaliser de grandes choses. L'aspiration à vouloir laisser sa marque, c'est là dans Genèse 1. Et donc, si dans votre esprit, comme chrétien, vous êtes, c'est juste un acte égoïste, attendez un peu, on va avancer ensemble. Ça, c'est la Genèse, c'est l'Ancien Testament. Peut-être que ça se complique lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament. On arrive dans le Nouveau Testament, puis là, comme je le mentionnais plus tôt, une des plus grandes vertus chrétiennes, peut-être après l'amour, c'est quoi? C'est l'humilité. N'est-ce pas? Les chrétiens, l'acte le plus beau pour nous, c'est quoi? Christ sur la croix. Le Fils de Dieu qui quitte sa gloire, qui s'incarne comme être humain, qui vient sur la terre, qui va jusqu'à donner sa vie, qui se laisse arrêter, martyriser, crucifier, mourir sur la croix pour nos péchés. Ce geste-là d'humilité, pour les chrétiens, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact sur notre compréhension à nous de l'ambition? Est-ce qu'en devenant chrétien, c'est fini les ambitions? Les rêves de grandeur, il n'y a plus de place pour ça. Les aspirations à laisser sa marque, c'est inacceptable pour un chrétien. Mais la piste que je vous ai donnée tantôt est super importante. Puis je ne vais pas beaucoup le développer, d'accord? Mais comme je vous dis, ce que je cherche à faire à travers la série, c'est brasser un peu votre conception de l'ambition pour qu'on puisse grandir ensemble. Il faut remarquer que l'humilité chrétienne a pour but ultime la gloire. C'est super important. L'humilité chrétienne, bien sûr, elle a pour but de glorifier Dieu. Lorsque je pose un acte d'humilité puis je deviens serviteur de quelqu'un, je m'en vais le servir, c'est un acte d'amour. Mais ultimement, qu'est-ce que les chrétiens attendent? Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 2. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Je suis sûr que vous passez souvent vite par-dessus le mot gloire. Ah, le bonheur éternel, la paix, la joie, plus de souffrance, la gloire. Le chrétien vit sur la terre en aspirant à une gloire éternelle. C'est-tu chrétien d'aspirer à la gloire? Le chrétien vit sur la terre en aspirant à une gloire éternelle. Paul dit qu'on est héritier de cette gloire, qu'on a une ambition du ciel. Écoutez bien ceci dans Romains 8, 18. Paul va dire, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La gloire des saints, la gloire du peuple de Dieu, la gloire de ceux qui ont marché avec Dieu. Au verset 21 du même chapitre, parlant de la terre, de toute la création qui soupire après la fin de toutes choses, le retour de Jésus-Christ, voici ce qu'il dit. « Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Avez-vous déjà songé à ça? Que l'humilité chrétienne, même si elle a toutes les motivations les plus nobles qui sont de glorifier Dieu, d'aimer mon prochain, il y a aussi cette aspiration très noble. Comprenez, Paul n'est pas en train de faire un aveu par en arrière en disant « Dans le fond, on aspire à la gloire. » Non, non, il est en train de dire « Aspirez à la gloire. » Le problème de l'être humain, c'est qu'il n'en veut pas assez. Il la cherche ailleurs. On va parler de ça la semaine prochaine. La corruption de l'ambition. Mais dans les Écritures, un chrétien aspire à la gloire. Je ne sais pas dans quelle mesure ça fait partie de votre conception de la vie chrétienne, votre conception de votre marche chrétienne au quotidien. J'aspire profondément, non seulement à vivre en paix, non seulement à voir la gloire de Dieu, mais j'aspire à participer personnellement à cette gloire-là par la gloire qui va m'être donnée d'être un enfant de Dieu. C'est-tu chrétien, c'est ce que je viens de dire? C'est-tu chrétien dans votre tête? Je sais, c'est chrétien, j'allais dans la Bible, je peux vous citer les versets. Dans ta tête, à toi, c'est-tu chrétien, ce que je viens de dire là? Ou tu dis, oh, c'est weird, man. C'est pas ça, un chrétien. Va lire ta Bible, copain. Quelque chose que tu n'as pas compris. C'est là dans les Écritures. Un chrétien aspire à la gloire éternelle. Un chrétien aspire à la gloire éternelle. Toujours Paul, dans 2 Corinthiens 4, 17, il dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un chrétien aspire à la gloire. Ça va peut-être vous prendre toute la série pour vous faire à l'idée, mais c'est clairement ça que les Écritures nous enseignent. Clairement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit comprendre de ça qu'un chrétien aspire à la gloire éternelle et donc sur la terre, toutes ses ambitions meurent? En attendant le ciel où j'ambitionne de la gloire éternelle, en attendant le ciel, toutes mes ambitions meurent. Quand tu deviens chrétien, ce que tu comprends, c'est que tu n'as plus d'ambition, tu n'as plus de rêve. Parce que la vertu du christianisme, c'est l'humilité, puis ça, c'est renoncer à tous tes rêves, à toutes tes ambitions. Je suis certain qu'une partie d'entre vous, c'est comme ça que vous voyez ça. Et on va répondre à cette question-là tranquillement. Mais clairement, clairement, l'apôtre Paul avait encore plein d'ambitions. On va les voir ensemble plus tard. L'apôtre Paul avait plein de rêves. L'apôtre Paul, écoutez, c'est spécial, l'apôtre Paul rêvait d'accomplir l'appel qu'il avait, qui était d'aller annoncer l'Évangile puis implanter des églises, d'une manière unique. Il ne voulait pas le faire comme les autres apôtres. Il se faisait un point d'honneur, nous dit-il, d'aller à des endroits où personne n'est allé, parce qu'il ne voulait pas rentrer dans l'ouvrage de quelqu'un d'autre. On va répondre à ces questions-là progressivement à travers la série. Et ce matin, ce que je voulais faire avec vous, c'est déposer cette idée simplement de grandeur, d'ambition qui est là en nous, en chaque être humain. Ça a été déposé là au moment où l'être humain a été créé, parce qu'en ceci, nous ressemblons à Dieu. On est appelé à être des créatifs, des gestionnaires, des organisateurs. On est appelé à créer, on est appelé à inventer. On est appelé à faire et on est appelé à laisser notre marque. Et donc, c'est là depuis la Genèse. Et c'est là jusque dans l'éternité. Puisque le chrétien aspire à ce qui est glorieux. J'ai l'ambition du ciel. Puis j'aurais pu commencer cette série-là simplement en disant, écoutez, on est tous ambitieux. Avec ce que ça a de bon, avec ce que ça a de mauvais, l'être humain est ambitieux. Les journaux sont remplis, l'actualité est remplie de l'histoire des ambitions des gens. Certains qui font des choses très nobles, d'autres des choses infiniment égoïstes et destructrices. Mais l'être humain, fondamentalement, il est ambitieux. Et c'est évident, dans les Écritures, mais dans notre expérience humaine, qu'il y a quelque chose de déficient avec l'ambition. La semaine prochaine, on va en parler davantage, mais on va appeler ça la corruption de l'ambition. Et donc, d'une part, si dans Genèse, on voit que c'est là, on a été créé pour rêver de grandes choses, pour réaliser de grandes choses, pour aspirer à laisser sa marque. Si on voit à travers tout le Nouveau Testament qu'on est appelé à aspirer à la gloire ultime d'être dans la présence de Dieu et nous-mêmes, d'être glorifié de notre amour avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu. En même temps, on regarde le monde, puis on dit, oui, mais il y a tellement de vies brisées. Il y a tellement de familles brisées à cause des ambitions personnelles. J'ai tellement fait parfois du mal à des gens autour de moi à cause de l'ambition. Donc, il y a quelque chose de profondément dénaturé. Et ça, ben, c'est l'histoire de l'être humain. L'être humain, c'est un être qui fondamentalement est noble. Je l'ai dit la semaine dernière, il y en a qui m'en ont parlé. OK, on est tous sacrés, on est tous des êtres éternels. Qu'on soit des gentils ou des bons, oui, on est tous des êtres éternels, tous des êtres sacrés. On a été créés à l'image de Dieu. Et donc, il y a quelque chose de profondément noble dans l'être humain. Mais en même temps, quand tu regardes comment le monde fonctionne, puis quand tu regardes, si tu veux être honnête, pour 5 cents, avec toi-même, quand tu regardes comment ton cœur fonctionne, tu comprends qu'en même temps qu'il peut y avoir une grande noblesse en toi, il y a une espèce de misère, de petitesse minable qui fait que souvent tu scrapes les plus belles affaires que tu essaies de faire, les choses les plus grandes, les choses les plus nobles. On va appeler ça la corruption de l'ambition. Et la semaine prochaine, on va s'intéresser particulièrement à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, on trouve l'être qui, par nature propre, puisqu'il était dans la gloire de son Père, puisque c'est le Fils de Dieu, possédait toute gloire. Mais il rêvait de réaliser quelque chose de, j'oserais le dire, plus grand encore que tout ce que Dieu avait fait. Christ ambitionnait de faire quelque chose de plus grand encore que ça. Et donc, il a quitté la gloire, il est venu sur la terre, il s'est humilié, et Dieu a honoré son œuvre, et il l'a élevé au-dessus de tout nom. Et si Christ possédait la gloire avant, il la possède encore davantage après. Et on va aller voir ensemble comment l'œuvre de Christ vient opérer une restauration, une conversion de ces ambitions corrompues qui nous animent. Alors, ce matin, je vous laisse avec un devoir, d'accord? Je vous donne un devoir pour la semaine. Je vais vous faire réfléchir, je vais vous faire travailler un petit peu. Je veux que ça devienne plus concret pour vous. Je vous demande cette semaine de prendre une petite demi-heure, peut-être de jaser, vous installer sur le perron, un calepin, dans un moment qui est à vous, là, puis de faire un peu de soul searching, OK? Allez fouiller dans votre âme un peu, puis chercher à répondre à des questions comme celle-ci. Quel est ton rapport avec l'ambition? À toi, quand tu penses à l'ambition, c'est quoi ton rapport à toi avec l'ambition? Est-ce que vous avez des ambitions? Est-ce que vous avez des rêves? Quels sont ces rêves-là? Quand vous y pensez, est-ce que le sentiment est que c'est sain, c'est génial, ou il y a quelque chose de malsain dans ça? Est-ce que vous avez perdu vos ambitions? Certains d'entre vous, vous m'écoutez ce matin puis vous dites « OK, je reste couché dimanche prochain. C'est pas pour moi, j'en ai pas d'ambition. » Mais quand tu étais petit, là, tu n'avais pas des rêves de faire des choses grandes un jour? Tu n'as jamais rêvé de faire des choses extraordinaires? Pas juste de voler comme Superman, comme moi. D'accord? Des choses que tu allais réaliser pour de vrai. Ils sont partis où, ces rêves-là? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont disparus? Je sais que ça peut être troublant comme question. C'est des questions super importantes. Et si je parle de la gloire qui est réservée aux disciples de Christ, à ceux qui marchent avec Dieu, à ceux qui s'appliquent à faire le bien en suivant Jésus-Christ, quelle place occupe dans ton quotidien cette ambition du ciel, cette ambition d'une gloire où toutes les ambitions vont être réalisées parfaitement? Entièrement, de manière glorieuse, où tu vas participer à cette gloire-là. Est-ce que cette ambition du ciel-là est présente dans ta vie, où tu dis, aïe aïe, c'est tellement pas là, aspirer à la gloire, ça fait pas partie de ma compréhension de la vie chrétienne. Certains d'entre vous, Dieu va commencer à restaurer des ambitions. D'autres, Dieu va entasser. Mais Dieu va nous aider, parce que c'est ça le christianisme, à devenir un peu plus entièrement humain. Un peu plus à la ressemblance de Christ. Et c'est ça qu'il va faire en travaillant cette question-là de l'ambition, de ces rêves qu'on a de grandes choses. Il va nous transformer pour être un peu plus à l'image de Christ, qui est l'homme parfait. On va devenir un peu plus humain encore. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je ne peux pas faire autrement que de t'adorer ce matin parce que tu es l'homme parfait. Tu es l'être humain parfait. Non seulement tu étais parfait, mais dans ta vie sur terre, tu l'as été. Et tu as été parfaitement humble, puis en même temps animé de ce désir profond d'accomplir la volonté de ton Père, de réaliser la chose la plus extraordinaire. Et ton Père t'a honoré de toute gloire. Il t'a placé au, au milieu de son trône pour qu'on puisse voir ta gloire. C'est ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse. Il t'a accordé toute autorité. Seigneur, je crois que cette question de l'ambition, des rêves est souvent malmenée dans les églises. On s'en sert parfois pour manipuler les gens, pour leur prêcher une espèce d'évangile qui leur dit « Crois en Jésus, tous tes rêves vont s'accomplir, ton compte de banque va se remplir. » Et c'est pathétique, Seigneur. Mais en même temps, cette œuvre que tu as commencée en nous, c'est une œuvre profonde de restauration, de reconstruction pour que nous soyons vraiment à ton image, Seigneur. Entièrement à ton image. De plus en plus libre, de plus en plus beau. De plus en plus inspiré par toi, Seigneur, à ta ressemblance. Viens faire une belle œuvre, Seigneur, dans nos cœurs. En restaurant l'ambition en nous, Seigneur. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.